12h, 12h30.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi matin sur Europe 1. Il est en colère contre Donald Trump après ses tweets contre la France et pour se venger, il lui a envoyé une bouteille de Beaujolais nouveau, Jean-Philippe Bizzini.
Bonjour à tous.
Pour la journée mondiale du recyclage, il a tenté de recontacter son ex, mais elle lui a demandé de se jeter dans la poubelle jaune. Pour lui, l'amour, c'est du compost. Ben H.
C'est tout à fait vrai. Bonjour à tous. Bonjour Anne Romanoff.
Le mois de novembre ne lui réussit pas. Il est tellement dépressif que sa psy s'est aussi mise à consulter une psy, le mélancolique Jérémy Lorca.
Bonjour à tous.
Le 17 novembre, comme tous les samedis, il participera au blocage de la caisse de son supermarché avec ses articles auxquels il aura arraché les codes-barres. Le révolutionnaire Didier Porte.
Yes.
Que ce soit en gilet jaune, en robe rouge ou en doudoune vert cacadois, elle ne fait jamais grève contre le style. Celle qui ne connaît pas le fashion faux pas, même quand elle grogne, l'a toujours stylée, Anne Romanoff. Ouais.
Au sommaire de cette émission, Didier Porte nous donnera des nouvelles de ses amis les People. Jean-Philippe Zini nous parlera de la journée mondiale du recyclage. À 11h30, nous recevrons Christian Vadim, David Brécourt et Mélanie Page, actuellement au théâtre de la Madeleine avec la pièce Le Temps qui reste. Et à partir de 11h50, ce sera Marc-Olivier Fogiel qui sera notre invité pour son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille, paru aux éditions Grasset. Ben H reviendra sur son parcours et Jérémy Lorca lui fera une interview papa moderne.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Hier, j'ai regardé Emmanuel Macron sur le porte-avions Charles de Gaulle en rade de Toulon. Le porte-avions était en rade de Toulon, Macron était en rade tout court. Non mais déjà, pourquoi un porte-avions? Est-ce qu'il faut y voir un message très subtil, genre « je vous mène en bateau » Et puis, est-ce qu'un porte-avions nucléaire, c'est le meilleur endroit pour parler de transition écologique? Hein, parce que comment le président s'est rendu sur le porte-avions? En pédalo? Ou alors peut-être que le porte-avions fonctionne à l'énergie solaire?
Oui, bien sûr.
C'est ça. En fait, il a voulu jouer à Top Gun, mais en France, en ce moment, c'est plutôt « y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Le président a dit qu'il comprenait la colère des Français. Ce serait mieux qu'ils comprennent pourquoi ils sont en colère. En plus, c'est pas compliqué à comprendre. Les Français sont en colère parce qu'on les comprend pas. C'est facile à comprendre, comprenez-vous?
Oui, tout compris.
C'est clair.
Du coup, les Français ne comprennent pas bien ce gouvernement. Un jour, il augmente les taxes. Le lendemain, il décide d'une aide pour compenser la hausse de la taxe. Mais pourquoi ils n'enlèvent pas directement la taxe? Parce que cette aide pour la taxe, il va bien falloir la financer avec une autre taxe. Et pour pouvoir payer cette nouvelle taxe, il va falloir une aide qui sera sûrement financée par...
Ouais,
le président a déclaré qu'il n'avait pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Gilles Boulot, qui a enfin réussi à en placer une, a répondu « vaste programme », comme aurait dit De Gaulle. Et là, on a bien vu au regard que lui a lancé le président que Gilles Boulot n'avait pas réussi à réconcilier le président avec les journalistes. À partir d'aujourd'hui, Orange va cesser de commercialiser des offres de téléphonie fixe basées sur le réseau historique. Est-ce que ça vous fait de la peine? Vous utilisez encore votre téléphone fixe? Alors, Jean-Philippe?
Bah évidemment, je me sers encore de ma ligne de téléphone fixe. Sinon, comment je ferais pour faire marcher mon Minitel?
Bah Jean-Philippe, le Minitel ne marche plus depuis 2012.
Ah bon? Bah je me disais aussi, il marche pas fort le mien, hein.
Ben.
Bah, j'en avais encore un il y a peu, un téléphone fixe, mais aujourd'hui, les seuls qui appellent, pour ceux qui en le savent, hein, c'est juste les commerciaux qui vous appellent. Et une fois, ça m'a été utile une seule fois, une copine s'éternisait un peu chez moi, je ne savais pas comment m'en défaire, et là, un vendeur de fenêtres appelle. Allô, oui, bonjour, Vitre et compagnie, spécialiste du double vitrage. Je savais qu'elle m'entendait de là où elle était, j'ai improvisé. Comment ça elle te quitte pour ton frère? T'es à la rue, mais viens chez moi, bien sûr, elle comprendra, elle peut partir, bien sûr. Histoire vraie.
Oui, bah, on salue la jeune fille. Hein,
on l'embrasse.
L'émission, elle va être contente.
Elle est sans doute mariée, heureuse.
Elle est mariée, heureuse.
J'espère pour elle, en fait.
Didier?
Oui, vous me demandez si j'utilise encore mon téléphone fixe.
Oui.
Vous n'y pensez pas. C'est beaucoup trop moderne pour moi. Non, moi, si je veux appeler un ami, je monte sur le toit de mon immeuble, j'allume un grand feu et je lui envoie des signaux de fumée.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Journée mondiale du recyclage, enfin une bonne excuse pour rappeler mon ex. Allô Jean-Phi?
Hein? Qu'est-ce qu'il met? Est-ce qu'on peut arrêter? Qui est cette personne là que vous avez embauchée Qu'est-ce qu'il fout là, ce gars?
Au moins, il est persistant dans son amour.
Mais je m'appelle pas Jean-Phi en plus. Jean-Philippe ou JP, si vous voulez. Mais Jean-Phi, ça fait un peu la grande Zaza. Allez, mesdames, messieurs, on y va, c'est la grande Jean-Phi. C'est n'importe quoi, c'est le prénom.
Mais tu le fais très bien.
Oui, mais je le fais rarement.
Non, mais Jean-Phil, c'est gratifiant.
Non, mais ça va, ouais. Allez, on enchaîne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tuile? Allez, Didier Porte, à vous.
Christophe Castaner l'a répété à la télévision, aucun blocage total ne sera toléré par les forces de l'ordre le 17 novembre. Il est marrant lui, mais si on fait juste un blocage partiel, ça n'a plus d'intérêt, ça s'appelle les embouteillages, on en a déjà tous les jours.
François Hollande a confirmé qu'il vient d'acquérir une maison à Tulle. Alors les gens se demandent comment on sera quand il est là, c'est facile, quand il est là, il pleut.
Au Japon, un homme s'est marié avec une femme virtuelle. Oui, et alors moi je suis bien en couple avec un homme imaginaire.
On me dit qu'au Japon, un homme s'est marié avec une femme virtuelle. Attendez qu'elle demande le divorce et vous allez voir qu'elle va très vite retrouver toute sa consistance.
Un collectif de scientifiques tire la sonnette d'alarme sur les conséquences d'une croissance démographique trop rapide. Faut arrêter de faire des bébés. Tu vois, Jean-Phi, j'arrête pas de te le dire. Pense à la planète et change de bord, c'est pour l'avenir de tous.
Où est-ce qu'on pose sa démission ici? Je sais pas quoi. À qui faut s'adresser pour changer de...
Europe.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Jérémy Lorca, Jean-Philippe Zini, Ben Hachidipo et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour dans l'un des magnifiques hôtels Partouche en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi matin avec Jean-Philippe Zini, Ben Hach, Jérémy Lorca, Didier Porte. C'est le moment de notre jeu.
Europe 1, Anne Romanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités.
Est-ce que vous pouvez nous faire la voix langoureuse, s'il vous plaît?
Ah là, il en redemande. Hein.
Ah oui.
Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités. Lynn Renaud a été désignée présidente du jury de la prochaine élection de Miss France qui tiendra le 15 décembre à Lille. Vous devrez donc deviner aujourd'hui des personnalités qui ont été présidents ou membres du jury de Miss France. Ouais. Grâce à Europe 1, tentez de gagner un week-end dans un des magnifiques casinos hôtels Partouche. Ce sont des lieux de détente, de divertissement, où vous passerez de belles soirées. Vous
profiterez
de deux nuits avec des petits déjeuners à l'hôtel Partouche de votre choix, des animations. Le casino, un repas restaurant, 30 euros de crédit pour aller jouer au casino Partouche. Allez voir tout ça sur www.partouche.com.
On joue là.
Didier, ça vous émoustille quand je prends une voix comme ça?
30 euros, oui, ça me.
On joue avec Lionel. Bonjour Lionel.
Bonjour toute l'équipe et puis bonjour Anne.
Bonjour Lionel. Bonjour.
Lionel, vous avez 46 ans, vous êtes agent immobilier à Grasset.
Ouais, c'est ça. Bon, je travaille sur Bourges essentiellement, hein, voilà.
Sur Bourges, dans le Cher. Ça se passe bien l'immobilier, là, à Bourges?
Non, oh, bah dans l'arnaque, on s'en sort toujours. Hein. Oh
c'est au moins, c'est honnête.
Cette franchise.
Qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez des maisons à des Parisiens? Vous vendez des...
Des maisons, des apparts, ouais. Et puis, on essaye de jouer à la carte de l'humour le plus souvent possible.
Qu'est-ce que vous dites, alors, par exemple?
Le prix.
Oh, je fais intervenir. Alors le prix, ça les fait pas toujours rire, mais j'essaye de jouer la carte de l'humour. Je fais appel à Nikos, par exemple, en disant bon, beaucoup de postulants, et puis un seul élu pour ce superbe appartement de 100 mètres carrés.
On ferme les yeux, c'est Nikos, hein, vraiment, c'est bluffant.
Vous imitez qui d'autre à part Nikos, Lionel?
Ah, parce que là, il a imité Nikos.
Oui.
c'était en cours de travail là.
D'accord.
C'est work in progress.
Vous jouez avec qui, Lionel?
J'ai envie de jouer avec vous, Anne.
Ah, bah vous avez raison. Ah. Donc, ce sont des personnalités qui ont été présidentes de jury ou membres du jury de Miss France.
D'accord.
Vous êtes prêts?
Oui.
Un très grand couturier, très célèbre.
Okay.
Oui, très bien. Il était dans Notre-Dame de Paris. Un nom d'origine corse, méditerranéenne, un Marseillais. Oui. C'était la fiancée d'Alain Delon. Elle avait une très belle chute de rein. Elle est voilà. C'est une championne de natation, très très célèbre. Elle a eu un enfant avec les frérots de la Vega.
Les deux?
Mais non. Elle est une chanteuse, une championne de natation. Oh.
Manodou.
Ouais, bah quand même, voilà. Un animateur très célèbre aussi, une tache de vin sur le visage, il anime des jeux sur
TF1.
Ouais. 5 bonnes réponses.
Et t'as vu, il avait dit Garou, il y avait Garou après.
Oui, mais il y a un mois après, mais moi,
j'ai anticipé, ça c'est mes dons de télépathes qui m'ont permis.
Et Laure Manaudou, chanteuse?
J'ai pas dit chanteuse, j'ai dit championne de natation.
Ah, j'ai entendu chanteuse.
Ah, ben c'est
tout le public a entendu chanteuse. Est-ce que, en exclusivité, vous pouvez nous chanter une chanson de Laure Manaudou, s'il vous plaît? Glou glou.
Non, mais c'était parce que j'étais stressée. C'est quoi, c'est... Non, mais
ah, moi, j'achète l'album, hein, Laure Manaudou.
C'était 40 secondes.
À la quand piscine, même... on est tous
mais
bien.
5 bonnes réponses, c'est pas si mal, Lionel.
Faire,
vous
ouais,
avez joué
ouais.
avec quelqu'un de très haut niveau, faut dire.
Oh, oui.
Oui, mais c'est ça.
On joue avec Céline. Bonjour Céline.
Bonjour Anne, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Lionel.
Céline, vous avez 39 ans, vous êtes infographiste.
Quel bel âge.
Eh ben, je suis passée à 40e semaine du coup.
Bah, vous avez bon 40 ans, bon anniversaire. Alors, vous jouez avec qui Céline?
Oui, avec qui?
Avec Jérémy Lorca, s'il vous plaît.
Très bon choix, vraiment.
Alors attention, donc des personnalités qui ont été jurées de Miss France, ce sont des gens assez connus hein, quand même. Mm. Donc c'est pas trop dur à deviner. Mm. Attention, top chrono.
Elle a gagné la Starac 2, elle est bretonne.
Nolwenn Leroy.
Oui. Ma meilleure amie.
Laurie.
Oui. Il est espagnol et il a gagné Danse avec les Stars la saison dernière.
Agustin
oui.
Guyana.
Exactement. Vous venez de lui parler, elle présente cette émission.
Anne Romanoff.
Ok, il a gagné The Voice, il fait partie des gens du voyage.
Kenji Girac.
Oui, c'est l'héroïne la plus connue de Plus belle la vie, elle est brune.
Laetitia Milo.
Oui, exactement, c'est la première femme de Johnny. Elle est blonde.
Ah, Véronique Sanson.
Non. L'autre, j'ai un problème, elle disait j'ai un problème, je crois bien que je t'aime, non?
J'ai oublié comment
c'est pas grave, casser la voix.
Patrick Bruel.
Oui.
Pardon, j'ai oublié ce nom.
C'est lui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes réponses, Céline.
Oui.
Pour vos 40 ans, vous partez en week-end.
Oh, génial.
Dans un des magnifiques casinos Hôtel Partouche, lieu de détente, de divertissement, vous passerez de belles soirées de nuit avec petit déjeuner à l'Hôtel Partouche de votre choix. Des animations au casino, un repas au restaurant, 30 euros de crédit de jeu pour aller jouer au casino Partouche. Allez voir tout cela sur www.partouche.com. Bravo, Céline.
Wow. Bon anniversaire. Super, merci beaucoup et merci, Jérémy.
Bravo.
C'était quand votre anniversaire, Céline?
C'était le 4 novembre.
Ah ben voilà, donc ça c'est une belle manière de fêter votre anniversaire.
C'est super, merci beaucoup.
Et Lionel, je suis désolée.
Bah écoutez, c'est pas grave, j'ai eu le plaisir de jouer avec vous et puis elle a bien joué en plus.
Ah bah elle a bien joué ou elle a été bien guidée, mais elle a fait 7 bonnes réponses et nous on en a eu que 5. Hein,
bon. Oui, mais bon, voilà, j'ai eu le plaisir de vous avoir, de jouer avec vous.
Puis et puis elle sait pas imiter Bigard, hein, donc.
Oui.
Bien plus, donc la prochaine fois ça sera mieux.
Vous pouvez nous faire une dernière imitation pour le plaisir comme ça? Allez, un petit Chirac. Allez, Chirac.
Oui, alors ça, c'est un petit peu facile, mais bon.
Vous le faites bien.
En fait, sans vous offusquer, Lionel, vous faites partie de ces imitateurs qui ont vraiment besoin d'annoncer à l'avance qu'ils imitent.
Oui, voilà, il faut un petit papier, vous allez à mettre comme ça.
On vous embrasse bien. Tous les deux, continuez à nous écouter.
Merci beaucoup, bonne continuation.
Profitez bien, Céline. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bisigny, Jérémy Lorca, Ben H et Didier Porte qui nous donnera des nouvelles de ses meilleurs amis, les People.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi matin avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Jérémy Lorca, Didier Porte. Alors, selon une étude Ipsos, 77% des Français font confiance aux médicaments et vous, mais seulement 49% ont confiance dans les laboratoires pharmaceutiques. Alors, vous avez confiance en qui, vous?
Non, moi, j'ai pas confiance. Et nous, à la maison, on se soigne qu'avec des plantes.
Ah bon, ça marche?
Je sais pas, mais en tout cas, on est bien défoncés.
Oh bah je sais pas, Didier, t'as un avis sur le Viagra?
Ouais. Non, mais le Viagra, c'est génial, ça te flanque une gaule de bienheureux façon Strauss-Kahn qui serait garée dans les vestiaires de la Fashion Week. Le problème, c'est que ça commence à se savoir que c'est génial, du coup, c'est aussi hors de prix.
Vous avez de nouveaux amis, Didier Porte, des gens jeunes, beaux, riches et célèbres?
Ouais, c'est ça, moquez-vous.
Je vous imagine bien sur un yacht à Saint-Tropez, ouais, ouais. Didier Porte.
J'ai bien compris votre manège. Vous cherchez à me briser psychologiquement en me cantonnant dans le rôle peu ragoûtant d'exégète attitré de la ragosphère et du gossip à gogo. Chroniqueur mondain, c'est bien ça. Hein. Eh bien, je ne me laisserai pas circonvenir par cette manœuvre grossière. Je vais réhabiliter la discipline. Je serai le Saint-Simon des ch'tis et des marseillais. CI à Las Vegas et Honolulu, le mémorialiste infatigable des tragédies tropéziennes. Je restituerai à Nabila son statut d'héroïne shakespearienne et rendrai au grand frère ce qui est au grand frère, à savoir la première place dans notre estime collective, ainsi que notre reconnaissance éternelle pour avoir su réinsuffler du régalien et de la verticalité dans les programmes de télévision minés par la culture de l'excuse. Et je vous démontrerai à vous, chère Anne, comme aux trois jeunes chroniqueurs d'accompagnement ici présents, que la lecture de la presse People peut se révéler intéressante pour peu qu'on l'aborde avec un esprit positif. Démonstration. Je découvre dans Public que l'acteur américain Orlando Bloom, qui n'est pas de la même famille que Léon Blum, je préfère vous le préciser tout de suite, mes jeunes collègues au regard enfiévré par le désir d'apprendre, s'est immergé photo à l'appui dans une baignoire remplie de glaçons. Et la légende de la dite photo nous informait que le jeune homme s'apprête à convoler en juste noce avec une certaine Katy Perry que je n'ai pas le bonheur de connaître. Dès lors, ce qui ressemble à première vue à une information totalement subalterne, Orlando Bloom s'est plongé tout nu dans une baignoire de glaçons, peut prendre une toute autre dimension. Il suffit pour cela d'en faire une lecture psychanalytique. À votre avis, quel message l'inconscient d'Orlando cherche-t-il à faire passer à sa promise en lui faisant accomplir cette performance? Manifestement, il s'efforce de la prévenir. Mais de quoi? Vous n'ignorez pas, ma chère Anne, même si c'est par oui dire, le processus physiologique implacable qui s'enclenche inexorablement aux dépens de nos attributs reproducteurs à nous, humanoïdes du genre masculin, à partir du moment où on les plonge dans de l'eau glacée. Et oui, vous l'avez compris, les amis, en lui faisant poster cette photo sur Instagram, l'inconscient d'Orlando lance à sa promise, la dénommée Katy Perry, qui ne peut pas le savoir puisqu'ils ne sont pas encore mariés, l'avertissement suivant: attention, j'ai un micro-pénis. C'est pour ça que je me sens dans mon élément au milieu des glaçons, évidemment. Et ça, vous pourrez le dire tout ce que vous voulez, c'est une information. Et une information extrêmement réconfortante pour tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de naître comme Orlando Bloom avec une gueule de star d'Hollywood. Vous voyez que même en lisant la presse People, on peut s'élever intellectuellement. Et je vais vous le prouver à nouveau avec ces quelques citations. Dans la continuité du dossier Orlando Bloom, je vous propose le délicat aphorisme suivant, signé Amanda Lear. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Ouais, de même que ce n'est pas le vrai auteur qui compte, mais le résultat sur le public. Ça sent un peu le plagiat, mais après tout, une blague comme ça, elle est faite pour être pompée. Je conclurai par ces deux phrases trouvées dans Voici et attribuées à une chanteuse dénommée Chim. Ma philosophie est que la beauté ne doit pas forcément être belle. Mais ma préférée, c'est celle-ci. Ça peut paraître un peu futile, mais mon compte Instagram, je le vis très profondément. Comme quoi, dans la vie, il y a pire qu'avoir un micro-pénis et d'avoir un micro-cerveau.
Europe 1. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Jean-Philippe Vizini, Didier Porte, Jérémy Lorca et nos invités Christian Vadim, David Bricourt et Mélanie Page, actuellement au théâtre de la Madeleine avec la pièce Le Temps qui reste.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Jérémy Lorca.
On est là.
Et nos deux invités, David Brécourt et Mélanie Page, pour la pièce Le Temps qui reste de Philippe Lelouch.
On est là.
Actuellement au théâtre de la Madeleine. On attend Christian Vadim qui est coincé dans les embouteillages.
Mais il arrive. Il est toujours en retard.
Mais arrête de dire ça, c'est
non,
pas
c'est
vrai.
C'est Philippe qui est plutôt en retard tout le temps.
Philippe Lelouch est toujours en retard.
Oui.
Donc ça fait cette pièce Le Temps qui reste. Philippe Lelouch, Christian Vadim, ça fait donc 15-20 ans que vous travaillez ensemble au théâtre.
Ouais.
Et vous, Mélanie Page, vous êtes une nouvelle venue en fait.
Ouais. Mélanie, ça fait la 3 semaines.
Nouvelle de la bande.
3 semaines. Et comment ça se passe?
J'avais déjà
elle
travaillé.
Elle est très à l'aise, hein. Elle
David.
Est arrivée, oui.
Très à l'aise.
Oui, tout s'est bien passé. Ils m'ont accueilli les bras ouverts. Et
parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était Vanessa Demouy qui jouait toujours le rôle féminin et
ouais.
Elle a divorcé.
Mais bon, ils ont divorcé.
Voilà. Et du coup, ça devenait compliqué. Ouais. Et on vous a pris vous.
C'est
voilà.
Ça.
Bah dit comme ça, c'est sympa.
C'est ça, mais nous n'allons pas nous marier avec Philippe. Hein.
Vous avez passé une audition, Mélanie Page, ou ça s'est fait par
non,
relation
en fait, j'ai joué dans une pièce précédente au même théâtre, au théâtre de la Madeleine.
Avec moi d'ailleurs.
Avec David. Et ça s'est bien passé. Philippe m'a connu.
Philippe Lelouch,
on se connaissait déjà, ouais. Mais il m'a découverte plus dans cette pièce et il m'a proposé le rôle, tout simplement.
Et donc c'est toujours, en fait, les thèmes des pièces de Philippe Lelouch, c'est toujours des copains qui se retrouvent. Ouais. Après ouais. des années, et là, le pitch de l'histoire, c'est que votre mari est mort.
Oui, mais vous avez le jour de son enterrement.
C'est très, très gai. C'est d'une grande gaieté.
Et on rit tout le temps.
Et oui. On rit tout le temps.
Le pitch ne paraît pas très gai, puisque c'est le jour de son enterrement, mais en fait, on va dire que ça réveille des choses en nous, en chacun de nous, et des vérités sortent. Et finalement, c'est souvent d'histoires dramatiques que naît le rire. Et le public rit vraiment beaucoup, et nous aussi d'ailleurs, on s'amuse beaucoup.
Alors, il paraît qu'ils, comme eux, ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble, ils ont un petit rituel avant de rentrer en scène. C'est quoi?
Et ben, on se met tous les quatre ensemble dans la loge. Et
tout nu.
Et on fait un chapitre.
Bien sûr. Alors, ça m'a étonné au début, mais ils m'ont dit que Vanessa le faisait. Bon, bah, ok. Et j'ai été acceptée très vite,
Pico-picorette, pico-picorette, ah, quelle belle.
Donc c'est, pico-picorette, pico-picorette.
Ah, comment, quoi? Alors, vous mettez en
pico-picorette, pico-picorette, poi-poi-poi, ah, quel beau. Belle. Et là, c'est le numéro
14e belle représentation à la Madeleine, voilà. Bon.
Et là, ça fait combien de temps que vous jouez cette pièce, le temps qui reste?
On a joué la 15e. Non, on joue
la 15e,
mais
pour nous, c'est 200. Oui, c'est. On a joué la dernière, on doit être à 120.
On me dit que Christian va dîner là, alors on va le faire.
Attention.
Est-ce qu'on fait une eau là?
Bah oui, quand même.
Ah, la minimum. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Christian Vadim. Alors on était bloqué dans les embouteillages.
C'est la trottinette maintenant à Paris. Hein.
Trottinette. La trottinette maintenant, ça sera ça. Ouais.
Alors c'est bizarre Christian Vadim avec cette cravate là, on dirait un notaire.
Alors Christian, quand il y a.
Tu sais pas parler aux hommes, Anne. Hein,
mais je dis la vérité.
C'est le problème depuis des années. Hein,
il est parti faire un entretien d'embauche juste avant.
Une télé avec Christian où voilà, un petit dîner, petit cocktail comme ça. Il y a toujours la cravate.
La cravate n'est pas gênante, c'est cette espèce de gilet.
Alors, fais voir, j'ai
mais
pas
attends,
bien
c'est
vu,
très
moi.
Chic.
C'est une tenue que je copie. J'ai une photo de mon père où il était comme ça avec cette tenue-là et c'est un souvenir pour moi. Voilà.
Ah,
tu te sens mal maintenant. C'était une photo dans les années 55, je crois. Il était en chemise, cravate avec un gilet, un peu comme ça. Donc j'ai un petit peu pompé le look, c'est vrai. Mais du coup, c'était il y a 50 ans. Donc,
c'est métrosexuel.
Alors, Christian Vadim, votre père était un grand séducteur, Roger Vadim. Vous avez plein de demi-sœurs.
Plein de belles-mères, plein de demi-sœurs. Et encore, je suis sûr qu'il y en a, je ne suis pas au courant.
Et donc, vous racontez que votre père était un prince qui flambait, mais qu'il était très tête en l'air. Et que pendant un jour, des vacances d'été, vous étiez en vacances avec lui, avec vos deux demi-sœurs. Et il devait les renvoyer à leur maman. Il s'est trompé d'avion.
Ah oui, moi je suis arrivé à Rome, je crois. Donc Jane Fonda m'a vu arriver en me disant « Qu'est-ce que tu fais là ?» Vanessa est arrivée à Londres. Et je crois que c'est Nathalie qui est arrivée à Paris. Ah oui, parce qu'elle est Vadim, on avait tous les trois le même nom, c'était Plenianikov, et donc on est arrivés dans les avions différents. Mais mon père était comme ça, c'est très, très, très drôle. Quand on allait à Disneyland, il accrochait un ballon à l'hélium sur la portière de sa voiture pour la retrouver. Parce que sinon, on pouvait passer une journée à rechercher la voiture.
Et il paraît qu'au départ, vous étiez très sérieux quand vous étiez jeune, Christian Vadim, par réaction quand votre père.
Ça faisait peur à mon père d'ailleurs.
Ah bon?
Oui, bah oui, il est quand même très sérieux cet enfant, c'est bien le mien. On en parlait, il disait oui, t'étais quand même très carré.
Et vous êtes toujours carré là, Christian
à moitié.
Vadim.
Maintenant,
à moitié
carré. Isocèle.
Isocèle.
Je suis triangle isocèle.
Et David Brécourt, il est carré ou il est?
Du tout.
Ah non?
Non, il n'est pas carré.
Il est carré.
Non,
je suis un peu carré quand même. Ça va quoi.
Détroit.
Vous voulez que je vous parle de ma famille?
Oui.
Ce sera beaucoup moins drôle. Hein.
Bah, vous n'êtes pas le fils de Catherine Deneuve. Eh
non,
ben
voilà. Non, non.
David Brécourt, vous dites que la première fois que vous avez croisé Philippe Lelouch, ça s'est très mal passé.
Il se détestait.
Vous étiez du côté de Fontainebleau.
On se connaissait d'ailleurs.
Il a dit que vous étiez puant.
Mais lui aussi était puant. C'était pas possible. Je ne pouvais pas le blairer, ce mec. Ah, mais l'horreur. On était les deux mecs à Fontainebleau qui voulaient faire ce métier. Donc lui, tout de suite, ben, il avait déjà une bagnole déjà plus intéressante que la mienne. Il avait déjà un toit ouvrant, insupportable. Et ce qui est marrant, c'est qu'un jour, par l'intermédiaire de nos enfants, on s'est retrouvé à un dîner. J'ai dit, non, mais surtout pas lui, quoi. Et il m'avait préparé trois feuillets. Il m'avait dit, tiens, voilà, j'ai trois feuillets à te donner, j'écris une pièce. J'ai fait, d'accord, le mec mytho. On s'est pas vu depuis des années, on se connaît à peine, et déjà il me file trois pièces. J'ai dit, termine ta pièce, au moins on verra. Et c'était le jeu de la vérité. Et 15 jours après, on faisait une lecture, et on a réussi à faire rire en lecture, ce qui est pas facile.
Et ça dure depuis 20 ans. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Christian Vadim, Mélanie Page, David Brécourt qui sont venus nous parler de la pièce Le Temps qui reste de Philippe Lelouch, actuellement Théâtre de la Madeleine. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Jean-Philippe Bizzini, Ben H, Jérémy Lanvin. Yes. Et nos trois invités, Christian Vadim, Mélanie Page, David Bricourt. Alors, Mélanie Page dit qu'elle s'est bien intégrée. Vous confirmez, Christian Vadim ?
Oui, c'est vrai. C'est une personne douce. Non, mais puis ça se voit sur bon, y a des visages qui sont trompeurs. Mais non, c'est une personne douce qui est aimante. Mmh. C'est rare dans ce métier, c'est rare déjà aussi dans la vie. Et donc c'est
ça, c'est vrai.
C'est très vrai.
Moi aussi, je suis douce et aimante.
Je n'en doute pas une seconde.
Oui, dites-le à l'antenne.
Anne, vous êtes douce et aimante.
Ah, je vous trouve très sympathique. Et donc, elle s'est bien intégrée parce qu'elle était douce et aimante.
Oui,
et puis très
et
bonne
après,
comédienne
c'est,
aussi.
C'est une bonne
oui.
comédienne.
Et
donc,
bonne camarade aussi.
Mais bon, ça, on le savait parce que David et Mélanie ont déjà joué ensemble. Moi, je l'avais vu au théâtre. Donc, bonne comédienne, je le savais. Mais après ça, voilà, il y a sur le plateau et puis en dehors du plateau. Et tout est très, très agréable. Tout est très harmonieux. Voilà.
Jean-Philippe Vizzini s'est oui. penché sur le recyclage.
Ah oui, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour le recyclage. Alors, avec ma femme, on a pris une grande décision. On a décidé de plus rien jeter à la poubelle. C'est fini, ça y est.
J'ai eu peur qu'il parle de sa femme.
Non, non. À partir d'aujourd'hui, on recycle tout. Par exemple, pour le bain à la maison, on est quatre. Et ben maintenant, on prend notre bain, chacun son tour, dans la baignoire, sans vider l'eau. Oui, alors c'est sûr, il faut mieux arriver le premier, hein, c'est sûr. Parce qu'à la fin, avec les restes des 4 gels douches différents, les shampoings, les démaquillants et tout et compagnie, le truc il est tellement chimique, on a mis le gosse dedans, il est ressorti blond platine. Alors après tout, c'est bon à savoir, hein. Du coup maintenant, c'est ma femme qui va dedans en premier, hein, comme ça elle en profite pour se faire les mèches, ça nous coûte moins cher en coiffeur. On recycle, l'autre soir on a fait un gigot, il en restait, on l'a recyclé en hachis parmentier. Il en restait encore, on l'a recyclé le hachis en pâté. Il en restait encore, au bout d'un moment on a tout refilé au chat. Bon, ben maintenant il va falloir trouver une solution pour recycler le chat. On recycle tout, les enfants aussi ils recyclent. Le petit m'a dit, papa, papa, regarde, j'ai pris du tissu, je l'ai plié en deux, j'ai mis de la mousse dedans, ça m'a fait une couette. Je dis, ben bravo, mais où est-ce que t'as trouvé autant de tissu? Il me dit, j'ai découpé ça dans une culotte de mamie. Oh. Je dis, ah bon, mais pour la mousse, t'as fait comment? Il me dit, ben, j'ai découpé les sièges de ta voiture. De toute façon, c'est un diesel, l'année prochaine, elle vaudra plus rien. Je dis, ben oui, ben d'accord, on recycle tout. Vous savez que maintenant, on peut adopter des poules pour réduire les déchets. Ah oui, ben on a adopté. Ben j'ai fabriqué un poulailler qu'on a mis au fond du jardin. On a mis tous nos déchets dedans. Et ben elles ont rien mangé. J'ai ma femme, ben tu vois chérie, quand je t'ai dit que tu cuisinais mal, même les poules elles ont pas fini leur assiette. Alors ce week-end les Français vont manifester car ils ont acheté des voitures qu'ils ne pourront ni revendre ni recycler. Donc mesdames messieurs du gouvernement, n'oubliez pas que vous aussi, dans 5 ans, vous serez recyclables. Voilà. Merci.
Merci Jean-Philippe Vizzini. En tout cas, c'est plein. C'est au théâtre de la Madeleine. Ouais, ouais. C'est plein. Ça s'appelle Le Temps qui reste. Donc, c'est une pièce sur la cinquantaine, en fait, sur les rêves qu'on n'a pas accomplis. Ouais.
50 et 40 pour les femmes.
Vous êtes plus jeune, Mélanie Page. Vous tenez jeune à le dire.
On a introspecté 30, 40 et maintenant 50. On espère les 60. Je ne sais pas. Ça pourrait être encore plus drôle.
Donc, la cinquième pièce de Philippe Lelouch avec toujours le même succès. Et on rit beaucoup.
C'est vrai que, vu le pitch au départ, quatre copains qui rentrent dans l'enterrement, c'est une comédie, t'es sûr, Philippe. Ouais, ouais. Non, mais c'est une comédie.
Et vous avez votre petit gilet sur scène, Christian Vadim ?
Non, pas du tout. Moi, je joue un flic. Et donc, je suis habillé exclusivement chez Jardiland.
Voilà. D'accord. C'est ça, exactement.
Eh ben, vous conseille tous d'aller au théâtre de la Madeleine, voir cette pièce de Philippe Lelouch, Le Temps qui reste. Mise en scène de Nicolas Briançon avec Philippe Lelouch, Christian Vadim, David Bricourt et Mélanie Page. Merci à vous d'être passé nous voir.
Merci à vous, c'était très sympa.
Europe. Dans quelques instants, c'est Marc-Olivier Fogiel qui sera notre invité pour son livre Qu'est-ce qu'elle a ma famille? Ne bougez pas.
11h30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ce jeudi avec Jean-Philippe Bizzini, Ben H, Jérémy Lorca. Yes. Et ce midi, nous recevons le petit prince du PAF, le MOF, le meilleur ouvrier de France de l'audiovisuel, l'ex-enfant terrible des late shows, celui qui ne cherche pas à plaire à tout le monde et qui y parvient sans peine. Un homme de télé, de radio, un papa. Ce midi, notre invité est Marc-Olivier Fogiel.
Hey,
Bonjour Marc-Olivier Fogiel.
Bonjour Anne, j'ai bien fait de venir.
Vous avez bien fait de venir ?
Bah ouais, vous m'accueillez avec les honneurs.
Bah oui, c'est pas fini.
Je m'attends donc maintenant au pire.
Bienvenue sur Europe 1, station que vous connaissez bien, pour avoir pendant des années conduit la matinale.
C'était il y a 10 ans, on était ensemble Anne, c'est que des bons souvenirs.
C'est vrai ?
Ah ouais, c'était top, ouais.
Vous n'êtes pas parti dans une autre station, enfin dans une autre station pas bien loin. Nous sommes comme qui dirait voisins. D'ailleurs, vous ne passez pas souvent nous voir pour pas.
Mais vous savez qu'on a déménagé, nous.
Oui, je sais,
on était juste
sûr.
À côté et puis maintenant on est assez loin.
Mais vous pourriez quand même venir boire un thé, nous dépanner d'œufs comme un voisin ou de quelques auditeurs, enfin des trucs de voisins quoi.
Je vous prête mes auditeurs, mais je les récupère à 18h ce soir.
Marc-Olivier Follet, vous êtes l'ex-enfant terrible de la télé du début des années 2000. On a l'impression que vous êtes assagi. C'est
la
maturité.
J'ai 50 ans aujourd'hui, donc encore heureux.
Vous faites pas du tout 50 ans. Ouais, vous faites 47.
j'ai rajouté beaucoup de cheveux pour ça. Ouais, j'ai fait,
vous avez fait des implants?
Ah ouais, beaucoup, ouais, beaucoup, plusieurs fois. Les derniers, il y a 3 mois. Donc,
Et ça fait très mal, il paraît.
Pas du tout.
Ah bon?
Non, non, ça coûte très cher, mais ça fait pas très mal.
Mais on vous pique la tête, on vous met des faux cheveux.
Ah ben non, c'est des implants, on vous prend vos cheveux à vous, qu'on réimplante devant.
Donc ce sont vos cheveux. Mais si vous n'en avez plus, comment on fait?
Alors génétiquement, vos cheveux ne peuvent pas, les cheveux de derrière ne peuvent pas tomber à vie. Donc vous avez toujours des cheveux en fait.
Et vous les épilez?
Ils vous les retirent un par un.
Ah oui, c'est comme
ça. Ça fait pas.
Ça fait mal.
Ça fait mal. Ouais.
Et ils vous les remettent devant. En fait, ils les changent de place.
Ils les changent de place, absolument. C'est exactement ça. Ils les changent de place.
On peut pas prendre des poils
des
d'ailleurs.
Je vois venir. En tout cas, ils ont pas essayé jusqu'à là. Mais peut-être.
Non, mais
peut-être,
ou des poils du dos. Ou
Oui, du dos.
Bah, c'est quand même mieux de prendre des cheveux pour réimplanter sur des cheveux. A priori, des poils du dos pour. A priori, il n'y a pas de raison absolue de faire ça. Mais pourquoi pas? J'en sais rien. Je suis pas un spécialiste.
Parce que vous aimeriez pas être chauve, en fait.
Non, en fait, non, je n'aime pas. Non, mais comme beaucoup, en fait, là, j'ai aucune originalité à ça. Donc, j'ai commencé ça il y a très longtemps. J'ai commencé mes premiers implants. Je savais pas qu'on parlerait des implants. J'ai fait un livre sur la famille, mais on peut faire un livre sur les implants. J'ai commencé mes premiers implants. J'avais 25 ans, hein.
Ah oui.
Et je sais pas, j'ai dû faire ça 5-6 fois déjà, ouais.
Ah ouais. Et alors, j'ai appris aussi que vous dormiez pas bien.
Oui,
mais vous en savez des choses.
En fait, je ne savais pas que l'émission d'Anne Romanoff s'était transformée en émission médicale. Je sais que
la
vie a beaucoup changé.
Il y a tout un truc sur la prostate.
Ça va pas tarder. Donc, en fait, maintenant, vous faites spécialité médicale. Oui. En fait,
je m'intéresse à tout ce qui est humain. Je suis empathique. Non, mais quand j'ai lu que vous dormiez pas, ça m'a fait souci quand même.
Oh, ça m'a fait souci.
Alors, je dors peu, effectivement. Je dors. Mais en fait, alors là, pour le coup, mais réellement, c'est la faute d'Europe 1.
Ça vous a détraqué le sommeil.
Je me levais à 1h45 pour venir ici présenter la matinale. Je restais jusqu'à tard après le 20h, etc. Bon, bref, et depuis, j'ai un sommeil qui ne fonctionne plus. Et donc, je m'occupe à autre chose.
Vous lisez, vous regardez Internet.
Je regarde Internet.
Vous regardez Twitter en pleine nuit. Là, il faut être fou quand même.
Il faut être fou. Mais je vous confirme que je suis un peu fou pour le coup. Mais je me désintoxique à Twitter pendant les vacances. Je mets mon portable dans un tiroir et j'essaye de le reprendre que le soir.
Et bon, vous y arrivez ?
Plutôt pas mal.
Plutôt pas mal, ça veut dire de temps en temps, vous regardez.
Ça veut dire qu'il m'arrive de temps en temps d'aller dans le tiroir. Mais non, plutôt pas mal. Mais si je ne fais pas ça, je passe ma vie sur mon portable, ce qui est un vrai problème.
Vous êtes vraiment addict, quoi.
Je crois, absolument.
Bah, c'est pourquoi pas louper l'actu qui arrive.
Ouais, c'est ça, non, mais ce n'est
addict
que ça.
Addict à l'info. Là, en fait.
Sauf que l'info, il y a une réalité professionnelle à le faire tous les jours. Parce que voilà, pour faire une bonne tranche d'info, il faut être connecté tout le temps. Mais en vacances, il n'y a aucune raison de se connecter. Et pourtant, en vacances, j'ai du mal à me déconnecter. Absolument. Ouais. Mais ce qui fait que j'ai un sommeil très saccadé. Depuis que j'ai travaillé dans cette belle maison et que depuis, ben voilà, je dors 3
heures et
demie.
Et quand vous étiez petit, vous étiez très angoissé du noir, j'ai lu ça.
Mais c'est tout. Ouais, ouais, absolument. Ouais.
18 ans de psychanalyse. Moi, j'ai...
Vous en êtes à combien, Anne?
Ah ben, bah, moi, j'ai fait moins longtemps. Et surtout,
et ça a marché?
Bah, quand même.
Ah bah oui, c'est vrai. J'ai lu des trucs pas mal sur vous.
Vous ne vous trouvez pas plus épanoui?
Ah bah, je vois vos affiches dans tout Paris. Oui, ouais. Alors, c'est l'épanouissement.
Je suis devenue sexy.
Vous l'étiez déjà un peu avant, mais...
Je me suis fait des implants.
Où ça?
Non, mais, je me suis... non fait... mais à un moment, je me suis fait des rajouts.
Ah oui?
Mais ça fait moins mal.
Mais vous savez que les implants, enfin, chez les filles, c'est ailleurs, généralement.
Ah, dans les seins?
Bah oui, évidemment.
Voilà, pas besoin de ça. Besoin.
Ah, 95B, mon ami.
Ah, 95B. Ah, quand même.
Mais, mais dans le dos.
Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Jean-Philippe Busini, Benna, Jérémy Lorca et notre invité Marc-Olivier Fogiel, venu nous parler de son livre « Qu'est-ce qu'elle a, ma famille ?»
Et de mes implants.
Et de ses implants. Mais on va en parler après la pause, ne bougez pas. Anne Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec avec vous sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bizini, Ben H, Jérémy Lorca et notre invité Marc-Olivier Fogel. Vous nous parlez de ce livre, Qu'est-ce qu'elle a ma famille. Alors Marc-Olivier Fogel, la radio c'est une passion, parce que tout petit vous étiez...
Moi je rêvais de faire de la radio avant de faire de la télévision. Il se trouve que j'ai fait pas mal de télévision dans ma vie, mais
à 14 ans vous triez les dépêches à RTL.
Oui, absolument,
vous j'ai grandi dans cette... Vous appelez Pampers
comme les couches. Mais c'est la réalité, ouais. C'est la réalité. J'ai la chance de faire exactement ce que je voulais dans la vie.
Mais un jour, il y a un directeur de l'info, Olivier Mazerolle, qui vous a brisé le cœur en disant « Je ne t'engagerai jamais RTL ». Il paraît que là, votre vie s'est effondrée quand il vous a dit ça.
En fait,
vous aviez 18 ans.
J'avais 18 ans. Je pensais pouvoir intégrer cette rédaction parce que voilà, j'y avais grandi. Et puis finalement, il m'a rendu un fair service parce que ça m'a obligé à aller faire autre chose, de
mais
la télé notamment.
Pourquoi il vous a dit qu'il ne voulait pas, parce que vous n'étiez pas assez...
Parce que vous savez, commencer quand on vous voit trop petit dans un endroit, vous n'avez pas assez de crédibilité pour pouvoir ensuite qu'on vous fasse confiance. Donc en fait, j'avais un problème de crédibilité.
Et
à
après,
ses
vous
yeux.
L'avez recroisé.
Bah aujourd'hui, il est dans mon émission le soir
et
sur RTL.
C'est génial.
Mais vraiment, franchement, il m'a rendu service. Mais en fait, dans l'anecdote, bien des années plus tard, il dirigeait l'info de France 2. J'étais sur France 3. J'avais fait une interview de Nicolas Sarkozy en prime time, plutôt pas mal, assez documentée. Il m'avait envoyé un petit mot me disant que j'avais bien fait finalement de persévérer, qu'il était ravi d'avoir contribué à me pousser à apprendre ailleurs que dans cette rédaction d'RTL où j'aurais pas eu chemin. Et rédaction dans laquelle je suis revenu, donc voilà, on s'entend très bien, il est avec moi toutes les semaines sur RTL.
Et donc, après, vous avez été assistante de Patrick Sabatier pendant des années, vous apportiez les cafés, tout ça?
Non, je préparais des surprises, mais je préparais des cafés aussi, mais je préparais les émissions à vie de recherche de Patrick Sabatier notamment.
Les surprises pour les invités.
Et ouais, tout ça, vous connaissez tout ça par cœur.
Et ça vous a plu de faire ça?
J'ai adoré parce que ça m'a développé un sens créatif que je ne pensais pas avoir, et j'ai...
Trouver des idées.
Ben voilà, les réaliser, faire en sorte que l'impossible ne...
Convaincre des gens de venir qui n'avaient pas envie. Parce que,
exactement, parce que, donc ça a été une super école.
Parce qu'à vie de recherche, les gens n'avaient pas forcément envie de venir. Des fois,
vous imaginez d'aller se retrouver face à
40 ans
copine
après.
Et en ayant beaucoup plus vieilli généralement que la vedette avec qui on était à l'école.
La vedette donc, qui a fait des implants et des botox.
Exactement. Donc, mais c'était une super école. Et j'ai appris beaucoup dans ce prime time de TF1 où on avait beaucoup de moyens pour bosser. C'était génial. C'était les années de télé, comme les enfants de la télé les aiment en fait.
Et puis alors, vous avez été sur Canal+. Et là, c'était les grandes années de Canal+, avec des fêtes toute la nuit, la drogue à flot.
À fond, partout. Comme à Europe, en fait. C'était
Europe. Bon, les fêtes à Europe 1.
Ils ont fini ou pas?
On n'est jamais invité.
C'est dingue, vous travaillez trop.
Non, mais c'était des années... Il y avait des fêtes, on recréait des stations de ski, vous parlez des trucs délirants, quoi.
C'était... c'était les grandes années Canal+. C'était assez génial, d'ailleurs, de passer de TF1, une chaîne très populaire, à Canal+, une chaîne assez élitiste.
Vous dites aussi qu'à cette époque-là, vous étiez en couple, et ça vous a préservé, parce que vous dites que vous avez pu faire n'importe quoi quand même, parce que vous
avez
un peu la grosse tête.
En fait, j'ai vécu 19 ans avec mon premier amoureux, et le fait d'avoir à rentrer tous les soirs à la maison dans un couple finalement assez traditionnel, sauf que c'était un couple de garçons, ça m'a finalement empêché de terminer la nuit sur le capot à 5h
du matin. Ah, c'est pour ça, d'accord, okay. Faut que je trouve quelqu'un.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Ah oui.
Ah oui.
Non, c'est-à-dire qu'il trouve beaucoup de personnes,
mais je finis sur le capot.
Il n'est pas stable.
Je comprends.
Il vogue de femme en femme.
Oui, je comprends.
C'est pas bon ça.
Bah, c'est autre chose.
C'est autre chose. Mmh. Ouais. Moi aussi.
Je vogue
de
mon homme.
Qu'est-ce qui se passe? Vous allez de femme en femme, c'est ce que vous dites, Anne?
Non.
Elle a totalement changé.
Une nouvelle femme.
Une nouvelle femme.
Non, moi j'ai été très stable pendant très longtemps.
Ah mais je sais ça. Et alors voilà. Depuis, comment ça se passe depuis?
Fait beaucoup de capots.
Elle aussi.
Bon, Marc-Olivier Fogel.
Anne Romanoff. On est en pleine concentration là.
Alors ensuite, il y a l'émission On ne peut pas le faire à tout le monde. Et évidemment, vous ne plaisez pas à tout le monde. Mm-hmm. Vous étiez un petit peu agressif. Hein.
Bah, c'est ce qu'on a retenu de moi. Je l'étais aussi, mais je n'étais pas que ça. Mais en revanche, c'est vrai que c'est ce qui m'a distingué du lot. Et on retenait les interviews où ça se passait plutôt mal, alors qu'il y en avait plein qui se passaient bien.
Et là, vous adorez le divan. Vous arrivez à faire dire des trucs incroyables aux gens.
Bah, quand est-ce que vous venez?
Rouge sur rouge, on va voir que la tête.
Vous avez été un enfant gros,
ouais.
Complexé.
Ouais. Oui, ouais, bien sûr, ouais. J'étais même. Je frôlais l'obésité. Ouais.
Et comment ça se fait, vous mangez n'importe quoi?
Appelez mon psy, il va vous résumer mes 18 ans d'analyse.
Et maintenant, vous êtes heureux?
Oui, maintenant je suis heureux, je suis papa, comme vous le savez, donc j'ai deux petites filles, un mari, un métier qui me plaît. Oui, je peux dire que je suis heureux et c'est un grand privilège.
Et vous dites
de
que la paternité a été une révélation pour vous, Marc-Olivier Fogel. Vous ne pensiez pas que ça vous épanouirait autant? Ça a été tout
ça
de suite, immédiat.
Ça a été un très long chemin pour arriver, donc évidemment, à constituer cette famille. Donc je savais bien que ça allait m'épanouir et que ça, enfin, c'est pas arrivé comme ça. Et c'est en deçà ce que j'imaginais de ce que je vis au quotidien. Ouais. C'est quelque
ça
chose
vous a
qui...
révélé, ça vous a ça transformé. M'a...
On dit que vous pleurez tous les jours. De...
Ouais, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. C'est un peu ridicule. Mes filles en aura le bol de me voir pleurer tous les jours. Mais
vous
c'est vrai.
Vous pleurez d'émotion. C'est vrai. Ouais, vous faites un dessin, vous pleurez.
Ouais, ou... j'entends un truc qu'elles disent. Je pleure. Je vois ce matin ma grande fille embrasser sa petite sœur et lui souhaiter bonne chance pour un petit truc de dessin. Je pleure. Enfin voilà, je pleure tous les jours, mais je pleure
de larmes de joie.
Ou de larmes de joie, ouais.
Pendant votre pause déjeuner, vous alliez voir votre fille à travers la vitre de l'école.
Ouais, quand elle a
là,
commencé
ça fait un
l'école.
Peu psychopathe. Ouais, ça...
C'est les autres parents qui se demandaient, mais qu'est-ce qu'il a celui-là à regarder nos enfants par la glace. Ouais, non, je suis... Aujourd'hui, ce qui me définit d'abord, c'est que je suis papa. Voilà. Et puis après, le reste de ma vie professionnelle avec ça, c'est formidable. Mais d'abord, je suis d'abord papa. Oh,
vous avez acheté une Mégane Scénique.
Tous les trucs que je trouvais ringard avant.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Marc-Olivier Faugiel, venu nous parler de son livre « Qu'est-ce qu'elle a la famille ?» aux éditions Grasset. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi matin avec Jean-Philippe Bizini, Ben Hage, Jérémy Lorca et notre invité Marc-Olivier Faugiel. Parlons de ce livre parce que ça fait 4 fois que je dis « il est venu nous parler de son
oui,
livre ».
Oui, pour l'instant on n'en a pas parlé. Donc les implants, comment on fait pour les implants?
Et le body tech.
Voilà, les implants et le sport électrique.
Donc l'instant, on en a parlé de tout ce qu'il n'y a pas dans le livre.
En fait, ce qui est bien dans ce livre, Marc-Olivier Faugiel, c'est que vous ne parlez pas que de vous. Vous avez enquêté sur la GPA pour rencontrer d'autres couples que vous décrivez.
Moi, j'ai deux petites filles qui sont nées aux États-Unis, portées par une femme qui s'appelle Michelle, qu'on appelle ici mère porteuse. Enfin voilà, c'est un livre qui aborde toutes les questions sur la GPA, pas pour convaincre, mais au moins pour que les gens qui soient contre le soient pour de bonnes raisons et pas sur des clichés qu'on leur raconte à mauvais escient.
Vous parlez de Jen, la donneuse d'ovocytes, et vous dites jolie petite brune pétillante et aventureuse.
C'est tout vous.
Oui, c'est ça. Une jeune femme très simple et très saine, la joie de vivre incarnée.
Ah bah voilà. C'est incroyable. Je l'avais à portée de main. Je suis allé jusqu'aux États-Unis alors que je l'avais à portée de main.
Il y a une jolie scène d'ailleurs où vous racontez que vous êtes au square, vous regardez les enfants jouer et vous dites.
Alors, dites-moi.
Voilà, allez regarder tous ensemble, s'amuser avec autant d'insouciance, enfants d'homo, d'hétéro, de divorcés nés, de GPA. On se demande si ce ne sont pas, au fond, les adultes avec leur nomenclature infinie, leurs cases, leurs procédures qui sont les plus infantiles.
Je crois, oui, vraiment. Et puis voilà, les enfants, en fait, la réalité.
Ils ne se posent pas ce genre de questions.
Mais ils se posent pas la... Non, voilà, ils comprennent assez vite et c'est assez marrant de voir des petits garçons et des petites filles qui viennent dormir à la maison, qui voient forcément deux papas et qui, pour qui ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Et les choses se passent dans la bienveillance, en fait. Hein.
C'est rare de voir quelqu'un qui s'ennuie pas au parc. Hein.
Ça, c'est vrai.
Incroyable.
Non, mais est-ce que vous lâchez votre portable au parc?
Au parc, ouais, non. Enfin, de temps en temps, ma fille me dit lâche ton portable, s'il te plaît.
Vous.
Voilà.
Ah, oui,
autrement,
alors,
je vais te dénoncer.
Oui, mais le. Ah, bah, la raison.
Je le fais à sa place. Hein.
Le parc avec un portable, c'est pas vraiment le parc. Le parc, ça doit être son portable.
Il fait des photos, hashtag le parc.
Une fois, une amie me dit tu peux jeter un coup d'œil sur mon fils? Je dis oui, bien sûr. D'accord. Le gamin. Déséquilibré, il se barre. Mon cœur s'est arrêté.
Du coup, on l'a retrouvé sur des bouteilles de lait.
Non, en fait, il avait traversé la rue, mais Dieu merci.
Ah, il a trouvé un boulot.
Ben H a des choses à vous dire, Marc-Olivier Faugiel.
Ah,
bah
oui, Marc-Olivier Faugiel, oui. Bonjour.
Bonjour. Enfin, on s'est dit bonjour déjà il y a une bonne demi-heure.
Ouais,
déjà,
mais nous, on redit
trop
bonjour.
De politesse, tu ne pas la politesse.
La bienveillance,
bien
la bienveillance.
Sûr. Voilà. Sachez en préambule, en parlant de bienveillance, que je vous aime beaucoup, pour dire vrai. En cinquième, sur l'affiche qu'on remplit le premier jour dans la case métier envisagé, j'avais mis chroniqueur de Faugiel.
C'est vrai?
Ouais, je rêvais de devenir votre nouveau Guy Carlier à l'époque. Hein, à l'époque, on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, bien, merci Jean-Philippe avec ton signe. L'avenir a montré que je n'en avais ni le talent ni l'appétit. J'étais un jeune téléspectateur assidu. Quand vous étiez un jeune animateur sans retenue, j'adorais le style, on l'a dit. Hein, vous étiez même surnommé le pitbull du PAF à l'époque pour vos interviews jugées trop agressives. Et depuis, on en a vu des bien plus durs, hein, des intervieweurs. Anne Roumanoff, aujourd'hui, Marc-Olivier Faugiel, hein, les trois quarts du temps avec Anne. On est ravis de vous recevoir ce midi sur Europe 1. Alors, c'est plus dur de réussir avec votre physique originale. Anne Roumanoff, ça, c'est du vrai pitbull. Et comme elle est toujours habillée en rouge, on l'a surnommée Red Bull dans l'équipe.
Oh.
Aujourd'hui, Marc-Olivier Faugiel, vous semblez loin du pitbull, hein, je vous écoute. Et j'ai l'impression qu'on est plus du tout sur un pitbull, hein, ça fait un peu
petit labrador.
Ouais, hein. Avant vous alliez mordre n'importe qui, aujourd'hui on a envie de vous sortir en forêt, quoi. On vous sent épanoui, la paternité, la maternité, la maturité, pardon. La maturité, la réussite professionnelle, ça pue le bonheur, tout ça, la cinquantaine accomplie, à tout point de vue, exactement le profil que recherche Red Bull, ma patronne. Mais c'est bien connu, Anne et madame qui nous écoutez, hein, les hommes bien que vous cherchez sont souvent de l'autre côté de la force. Ah, c'est grâce à cette justice divine que les mecs moins bien comme moi tirent leur épingle du jeu.
Évidemment.
Mais votre magnifique tableau familial qui ferait rêver, qui ferait envie, hein, même moi, le cutard célibataire que je revendique, eh bien, il a un prix, ce tableau, Marco. Il a un prix. Hein. Aujourd'hui, pour de nombreuses personnes, fonder une famille, bah, c'est pas juste de l'amour, c'est aussi un long combat. Et dans ce combat où la seule idéologie, c'est l'égalité des cœurs, vous avez décidé de faire entendre le vôtre. 256 pages pour témoigner, 256 pages pour dire que tout le monde a le droit de connaître ce bonheur que vous avez vous-même connu. Vous le savez mieux que personne, Marco Fogiel, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si le combat individuel est long, a été long, il le sera encore. La route collective sera aussi très longue pour que demain, une famille, ce soit juste des gens divers qui s'aiment et qui s'engueulent.
Ça me touche. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Marc-Olivier Fogiel. Ah, ça passe très vite quand le talent est là.
C'est quoi, c'est Raphaël Duchemin qui est après vous?
Oui, mais c'est pas tout de suite.
Ah oui.
Non, il y a encore vous encore.
Oui, non, mais elle va peut-être nous laisser un peu de place. Enfin, non, on peut lui demander, non?
Non, on peut pas.
Non, on peut pas.
Qu'est-ce qu'elle a, ma famille? Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
D'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Jean-Philippe Vizini, Jérémy Orca et notre invité Marc-Olivier Fogiel. Je trouve c'est très bien parce que vous êtes épanoui dans la paternité, mais je voyais arriver le mais.
Oui, mais vous nous emmerdez avec votre bonheur quand
même.
Franchement,
mais c'est que là vos filles sont encore petites, mais il y a un moment.
Ah, vous allez voir.
Racontez-nous, l'adolescence, ça s'est mal passé à la maison.
Mais c'est pas que ça s'est mal passé, mais il y a un moment les enfants sont agressifs et ça c'est beaucoup moins grave comme période.
Mais oui, mais bon, on va, ça sera, bah voilà, on les accompagnera dans leur adolescence de la même façon que vous avez accompagné les vôtres.
Non, parce que là vous allez pleurer, mais pour quelque chose.
C'est ça. Enfin, je les enverrai chez Anne parce que les siennes seront plus là, elles seront déjà parties. Voguer de leurs propres ailes et je vous enverrai les miennes si vous avez l'habitude. Vous, c'est deux filles aussi, Anne, hein, c'est ça?
J'ai deux filles, mais c'est compliqué par exemple pour ranger ou des choses comme ça.
Ah bah c'est déjà compliqué aujourd'hui hein, pour ranger à la maison. Je vous confirme. Donner des ordres à des enfants, je ne sais pas faire ça.
Eh ben moi je sais, mais on ne m'obéit pas.
Il faut taper plus fort.
C'est ça en fait, il faut cogner plus fort.
Tu vas pas nous faire croire que tu n'as pas d'autorité quand même.
Mais non, mais après tu crées un conflit, il y a une mauvaise ambiance, donc à un moment je préfère mieux laisser la chambre et qu'il y ait une bonne ambiance. Quoi. Mmh.
Moi, je les rendrais de toute façon. Non, c'était, je plaisantais. elle m'a regardé, elle s'est demandé si c'était vrai.
Alors, Marc-Olivier Fogiel, vous avez des très jolies phrases sur votre père aussi. Et vous dites que votre père, vous ne vous laissez pas avec vos peurs, qu'il fallait les affronter, les dépasser. Il a combattu votre phobie du noir, mais comment il a fait alors pour...
Quand on était petit, il se mettait à l'autre bout de l'appartement. Il faisait donc très noir et il fallait que je le retrouve. Et il fallait que j'affronte ma peur. Et il m'a permis de la dépasser en disant les choses, en affrontant les choses et pas comme ça, en disant ça va passer.
Moi aussi, mon père, il m'a mis dans le jardin.
Dans le jardin. Et alors?
Dans le noir.
Dans le noir. Et alors? C'était
peur.
Pour vous punir ou c'était
non,
pour raconter?
C'était pour que j'arrête d'avoir peur.
Et ben, c'est la même chose. Et
alors, mais j'ai toujours peur.
Ah, mais moi, ça m'a permis d'affronter ça. Vraiment, j'étais phobique et ça, voilà. Quand on est face à ses phobies et qu'il y a quelqu'un d'accompagnant avec vous, c'est pas juste des mères de toi et qui. Voilà.
Enfin, j'avais pas trop aimé, moi.
Il y a que moi qui était dans le placard, alors.
Il faut que t'en sortes, justement, du placard. Toi.
Ça va, je trouve qu'il est...
Il est bien sorti.
Oui, il est très sorti. Ah,
il
est
trop sorti. Il me manque des épisodes, ici.
Des fois, il faudrait qu'il rentre un peu dans son placard.
On l'appelle Ikea, dans le métier.
Bon, Jérémy Lorca a des petites choses à vous dire, Marc-Olivier Fogiel.
Alors,
Marc-Olivier Fogiel, je suis ravi de vous rencontrer. Alors, quand on m'a demandé de vous interviewer...
Bon, on s'est déjà croisé.
Non.
Ah si.
Ah bon? Dans une soirée un peu chelou. Il était derrière toi.
Il me reconnaît pas.
Non, vraiment, je suis intrigué.
Vous étiez derrière.
Je crois que dans des couloirs de radio, il me semble qu'on s'est déjà croisé.
Ah, des couloirs de radio.
Non, je m'en serais souvenu, mais bon, très bien.
T'étais sur une balançoire.
C'est comme ça que vous appelez ça, balançoire.
J'ai pas compris, moi.
On vous amènera dans des endroits un peu
bizarres.
Un peu bizarres.
Soit tu vois dans les endroits où il y a des balançoires.
Oui, il y a une balançoire et il y a.
Non, je crois qu'à cette heure-là, c'est pas la peine. Voilà.
Mais si, moi, je vais apprendre des choses.
Quand on vous amènera.
Oui, avec Jean-Phi, j'arriverai un jour, c'est sûr.
Oui, il est balançoire.
Tu vois. Alors, bref. Donc, quand on m'a demandé de vous interviewer, je dois vous avouer que dans mon plan de carrière, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Pour notre première rencontre, j'imaginais superstar allongé sur un divan, voir
racontant que j'ai eu une enfance hyper perturbée, alcoolique à 8 ans, droguée à 9, prostituée à 13. Mais c'est le cinéma qui m'a sauvé de mes vieux démons et ma maison de campagne où je suis proche des animaux et où je fabrique du beurre moi-même. Un discours parfait pour faire pleurer la ménagère. Mon plan était infaillible. Mais bon, comme la vie en a décidé autrement, je vais vous faire une interview parents modernes.
Allons-y.
Et j'ouvre quand même une petite parenthèse que je suis un peu vexé. Marc-Olivier Fogel, est-ce qu'étant devenu parent, vous êtes plus indulgent avec les amis qui nous montrent pendant des heures les dessins de leurs enfants?
Mais évidemment, parce qu'avant, évidemment, avant, vous êtes obligé de vous extasier devant des trucs dont vous avez absolument rien à faire, parce que vous-même, vous n'avez pas ces émotions-là. Et je comprends maintenant, évidemment, maintenant ça m'intéresse. Avant, on fait semblant de s'intéresser.
Est-ce que lorsque vous organisez un goûter d'anniversaire ou que vous emmenez vos filles au square des Batignolles, est-ce qu'il y a, quand il y a un brouhaha incroyable, vous n'avez jamais rêvé secrètement de silence et de pouvoir mettre tous les autres enfants en mode avion?
J'adore être au milieu des enfants. J'adore que les enfants viennent à la maison, foutent le bordel, ce qui plaît moins à mon mari, puisqu'il faut dire mari, je déteste dire mari, mais bon, c'est comme ça.
Vous voulez dire quoi?
Mon mec.
Dites mon mec, pourquoi?
Mon mec, mais parce qu'on est mariés, donc.
On peut dire mon mec quand on est marié.
Mon mec, donc voilà.
Et on peut dire mon mari quand on n'est pas marié, on dit ce qu'on veut. Hein.
Ah bah non, on n'est pas marié.
Mais
on dit pas
mon mari. Quand on a personne, on dit rien.
Je ne dis rien. Alors, Marc-Olivier Fogel, quand vos filles font une bêtise, vous êtes du genre à les punir 5 minutes chrono avant d'aller leur faire un câlin, ou alors vous arrivez à rester inflexible?
Je n'arrive pas à les punir, mais c'est impossible. Mais c'est un problème, hein. D'ailleurs, elles en jouent, je ne sais pas, je n'arrive pas à les punir. Elles ont l'ascendant sur moi, mais il faut que ça change.
Ah.
C'est un engagement.
Vous allez galérer à l'adolescence.
Je vous ai dit, je vous les envoie. Hein.
De dire ça à la radio quand elles ont écouté tout ça, c'est bien. Hein.
On a gagné.
Alors, bah, elles ont gagné.
Et pour finir, moi, je suis un homme célibataire et je suis en pleine démarche.
D'accord.
Et,
pour
avoir un enfant. Ah. Et c'est hyper compliqué. Et là, je suis vraiment à deux doigts d'envisager le kidnapping. Mmh. Alors, est-ce que vous pensez sérieusement qu'à terme la GPA arrivera en France?
Je ne le crois pas. Sincèrement, je pense que la société n'est pas prête à ça aujourd'hui. Donc, mon combat, c'est pour que ces enfants soient reconnus, puisque notre lien de filiation ne l'est pas toujours, mais que la GPA soit possible en France, je ne crois pas.
Donc Anne, tu sais ce qu'il te reste à faire?
Non.
Un enfant avec moi. Merci beaucoup Marc-Olivier.
Kidnappez-lui un des deux.
Europe 1, Anne Romanoff. L'histoire de la semaine.
Marc-Olivier Fogel, avant de se quitter, on a une tradition dans cette émission. On démarre chaque jour une histoire qui est continuée par les invités. Vous écoutez notre émission.
Ben oui, mais je suis assez nul, moi, dans l'invention.
Alors, vous allez piocher un mot
dans ce chapeau. Alors, États-Unis, tiens.
Oui.
Mais c'est pour la promo de mon livre.
Oui.
Mes filles sont nées aux États-Unis, oui. Tout c'est bien. Elle est bien faite. Qu'est-ce qu'elle a ma famille chez Grasseur? Enfin bon, bref, j'en profite.
Alors,
un peu.
Histoire du jazz, c'est une histoire de jazz qui a été démarrée lundi par Liane Folie, continuée par Pierre Perret mardi, hier Claudia Tagbo. Donc, à vous de continuer cette histoire. On écoute ce qu'ils ont raconté.
Un soir, j'ai rencontré dans une boîte de jazz une femme extraordinaire.
Une demoiselle qui avait une sacrée paire d'ailes. Langoureuse et rêveuse, elle m'a sauté dans les bras.
Et elle m'a dit: je suis tellement heureuse de vous rencontrer. Mon nom c'est Lucy, mais pour les vite on dit Lucky. Vous pouvez m'appeler Lucky parce que vous avez énormément de chance de me rencontrer ce soir. Et pour vous, je vais chanter jusqu'à ce que la fièvre monte sur votre front.
Et je serais d'accord pour porter vos enfants aux États-Unis, pour que votre famille s'agrandisse et que vous en ayez un troisième.
Merci Marc-Olivier Fogel d'être passé nous voir. On rappelle votre livre « Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?» aux éditions Grasset. Je vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. Nous, on sera de retour.
Elle vient donc.
Oui, elle vient. Et on sera de retour dès demain à 11h. Bon après-midi à l'écoute d'Europe.